la musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Sigh.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 à Paris, et dans le 11e arrondissement par exemple, en région parisienne, et dans le monde entier, ainsi qu'à Donostia, San Sebastián, au Pays Basque espagnol, sur radiolibertaire.net ou bien sur anarchiste.info. Vous écoutez Les Oreilles Libres, où l'on parle, où l'on écoute des créations singulières et curieuses. Aujourd'hui, nous avons la grande chance et la joie d'accueillir Esther Ferrer. Enfin, c'est plutôt elle qui nous reçoit chez elle à Paris. On est très touchés, parce que pour Les Oreilles Libres et pour Radio Libertaire, ben, ça a beaucoup de sens. Merci et bonjour Esther.
Merci à vous pour venir jusqu'à ici. Bon, vous n'êtes pas très loin.
Nous avons commencé l'émission par écouter Suspirio de España, Soupir d'Espagne, qui est à la base un passo doble très populaire. Esther devait faire une œuvre sonore pour un disque sur Zar, qui devait sortir en Italie. Elle était en train de penser quoi faire. Et justement, il y a eu le coup d'État de Terejo, un teniente de la Guardia Civil, qui est rentré dans le Parlement. Donc, elle a demandé à une radio l'enregistrement de ce moment-là et elle a fait cette courte pièce. Tu as un long parcours dans la performance, dans l'installation, tu as donné beaucoup d'interviews. Donc ce que je te propose, c'est de commencer tout simplement par cette question en fait. Peux-tu nous dire ce qui a déclenché chez toi cette envie de faire des performances? Qu'est-ce qui a déclenché ça?
En réalité, ça a été l'hasard. J'ai vivé à San Sebastián dans ce moment-là et un artiste ami à moi, qui était peintre, avec lequel j'avais fait à San Sebastián des livres, l'atelier de livres expression infantile basé avec les méthodes Freinet français, d'enseignement artistique. Chez nous, c'était seulement la partie artistique. Et il m'a dit un jour, j'ai des amis qui vivent à Madrid, des artistes, un groupe qui font des choses très rares. Et ils vont venir à San Sebastián faire ce qui, à l'époque, ne s'appelait pas du tout performance. Hein. Et ils m'ont dit si je connais une femme, parce qu'ils veulent qu'il y ait une femme dans le groupe. Et j'ai pensé que l'unique personne qui peut faire ça, parce qu'ils sont très rares, c'est toi. Et j'ai dit OK. Il m'a dit ah, tu seras les samedis, je ne sais pas à quelle heure, au musée de Saint-Elme. J'ai dit oui, je serai là. Donc, je me trouvais avec eux. C'était le groupe phare. Alors, ils m'ont dit comment ça allait se développer la soirée. Et j'ai fait plus ou moins ce qu'ils m'ont dit de faire à ma façon. Hein. Il avait des pièces de plusieurs personnes. Donc, quand on a fini, on est allé dîner. Et les groupes phare, ils m'ont demandé, écoute, nous, on a bien aimé comment tu fais les choses. Est-ce que ça t'intéresserait de continuer à travailler avec nous? J'ai dit, OK, avec une condition, que je puisse faire mes propres pièces. Ils ont dit, bien sûr. Alors, on a commencé comme ça. J'avais entendu parler des mondes de l'action à travers un peu des Fluxus, des Gutai japonais, tout ça. Bon, les actionnistes viennois, tout ça. J'avais quand même une certaine idée. Mais j'avais jamais, jamais fait quoi que ce soit. Donc, j'ai dit OK. Et on a commencé, et j'ai commencé à inventer ma façon de faire. D'accord. Et ça a duré 30 ans.
Ouais. Et alors, tu as parlé justement de pédagogie, d'enseignement artistique. Est-ce que tu as quand même une formation
artistique
ou de la pédagogie, puisque tu es mené un atelier... De
pédagogie, oui, parce que j'avais étudié déjà pédagogie. De formation artistique, aucune. Bon, je veux dire, je voyais depuis toujours des expositions, j'allais dans les concerts, j'ai lissé, tout ça. Mais c'était complètement autodidacte dans ce sens. Hein. Pédagogie, non. J'avais étudié et les méthodes freinées, bon, c'est un peu comme les méthodes Montessori, etc. J'avais entendu parler de beaucoup de... Mais freinées, je ne les connaissais pas vraiment près. Mais José Antonio, oui, parce qu'il habitait en France. Il était marié avec un Français, il habitait dans la région d'Andaï, Bayonne. Donc là, il avait des écoles freinées. Voilà. Donc, j'ai fait deux stages en France et on a ouvert l'atelier que je gavais à Ardenal. Je ne comprends pas, en plein franquisme, on n'a pas demandé aucune permission, on a loué un local Et on travaillait le jeudi et le samedi, que c'était les jours que les enfants n'allaient pas à l'école et qu'ils venaient dans notre atelier, et en plein centre de Saint-Sébastien, plus centre impossible. Et on a passé et personne, jamais, ils sont venus voir qu'est-ce qu'il faut. Et c'était des gens qui venaient, les parents, les familles, ils appartenaient à des milieux différents, tu vois. Et on a entendu parler et parfois ils venaient des gens nous voir, tu vois, et des choses comme ça. Personne n'est venu nous emmerder. C'est curieux. Hein? Je ne sais pas. Et on a fini pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la censure ou avec la politique.
Tu as parlé du groupe ZAR, donc ça s'écrit ZAJ. Oui. Hein. C'est on a parlé la dernière fois de ce J espagnol.
La J, la J ouais, voilà. Arabe. C'est la H arabe qui est transformée en J en espagnol.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ZAR, quand, comment, pourquoi, par qui ça a été fondé, quelles étaient vos activités?
Voilà, ZAR, ça a été un groupe qui a été formé pour Ramon Barce, Juan Hidalgo. Ramon Barce et Juan Hidalgo étaient espagnols, canariens et madrileños, et Walter Marchetti était italien. Et ils se sont trouvés, ils ont commencé à faire, o sea, ils ont été, tous les groupes, ils ont été très influencés pour le Cage, et, comme tout le monde de l'action. Et le monde de l'action, au commencement, il avait beaucoup de musiciens. Hein? Donc, beaucoup de poètes et de peintres aussi, mais surtout beaucoup de musiciens. Alors, ils ont commencé ce mouvement, que c'était un groupe assez ouvert, hein, même si les fondateurs, c'était ces trois-là. Il y avait des gens qui collaboraient, qui participaient quand ils organisaient quelque chose et tout ça. Et ça a commencé dans ce sens, dans l'Espagne franquiste, en 1964 ou 65, je ne me rappelle pas très bien, quand j'ai... Et Conizar, ça faisait 2 ou 3 ans que ça marchait, et c'était tous des hommes, et pratiquement tous des musiciens. Et moi, je n'étais pas musicien, et je n'étais pas homme. Voilà. Et j'ai commencé à travailler avec eux, et petit à petit, je veux dire, faire actions. Faire des actions à l'époque franquiste en Espagne, ce n'était pas évident. Pas seulement pour les problèmes de censure et tout ça, que c'était, ils s'en foutaient un peu de l'art, tu vois. Si tu n'écriais des Chaises Laurent comme ça, ils s'en foutaient, ils comprenaient que dalle d'ailleurs. Mais c'était surtout parce que ça, si tu voulais faire une carrière artistique, vraiment, il ne fallait pas faire ça. C'était, tout le monde nous considérait, bon, je veux dire, en El País, par exemple, ils nous appelaient les barros de l'arte, les fainéants de l'arte. Je veux dire, les gens rigolaient de nous, tu ne peux pas t'imaginer comment. Donc, petit à petit, pour des raisons complètement personnelles, hein, les gens, ils ont commencé à participer quand il y avait quelque chose, tu vois, donc... Au bout de très peu de temps, on a resté Juan Walter et moi, tous les trois tout seuls. Donc, on a continué, nous les trois. Voilà, et les dernières actions, on les a fait en 1999, je crois que c'est en 97, je ne me rappelle plus, à l'époque, au moment de l'exposition de Reina Sofía, qui nous a organisé une exposition. C'était la dernière action commune de ZAR.
Quelle était votre ligne? Vous aviez une ligne artistique?
Ils n'avaient pas de ligne. Et nous, on n'avait aucune censure. Chacun faisait ce qu'il voulait. On n'a jamais fait des œuvres communes. J'ai fait une pièce, le Juan Balte, et dans les programmes, on mettait des pièces de tous les trois. Si on avait besoin, j'avais besoin d'une personne, j'ai demandé à Juan ou à Walter s'il savait. Et jamais il a eu des censures. Tu proposais ce que tu voulais et les autres l'acceptaient sans aucun problème. Par exemple, si Juan me disait, Esther, j'ai besoin que tu m'aides pour faire ça, je vais faire ça et ça. Tu pouvais lui dire, Juan, pourquoi tu ne le fais pas comme ça? C'est peut-être mieux. Et on pouvait discuter, mais juste comme tu pourrais le dire, ou comme quelqu'un d'autre. Et ce n'était pas du tout une opinion artistique, pas du tout. Et ça a marché tout le temps, comme ça. Il n'y avait absolument aucune censure de nous. On faisait ce qu'on voulait, chacun.
Et tu as parlé de John Cage.
Oui.
Et quelle était la relation de... Il y a une relation assez forte, en fait, entre ZAR et John Cage.
Oui, non, il est en réalisme... Parce que Juan y Walter, qui vivait à Milano, à une époque, ils ont connu Cage à Milano, et ils ont gardé en contact avec lui. Donc, comme il était près de ZAR, je l'ai connu, évidemment. C'était pour la force des choses. Et après, bon, à Paris, je l'ai connu à Pamplune, physiquement, hein, à Pamplune, pour quand dans le 50 de Pamplona, en 72, je crois. Et après, il nous a organisé un tournée. Il est venu voir notre action à Pamplune et il nous a dit textuellement, ça, les Américains, il faut qu'ils connaissent ça, les Américains. Il nous a dit ça comme ça, je vais vous organiser un tournée. Ça, c'était, je crois, la fin de l'été, je ne me rappelle pas. Et l'année suivante, c'était, je crois, janvier ou février, il faisait très froid à New York. Il nous a organisé les voyages et on a fait beaucoup, beaucoup de performances de New York jusqu'à San Francisco. On n'allait pas en avion, on allait en autobus. Et comme ça, on pouvait voir les pays. Et on allait dans beaucoup d'universités, surtout dans la section de musique, parce que Keith connaissait beaucoup des professeurs comme Christian Wolff, comme Bob Ashley, beaucoup de gens, donc, comme Molton Feldman, qui était à Buffalo. Donc, ils nous ont invités on a fait, tu t'es dit, de New York à San Francisco, en s'arrêtant, aller et retour. On a fait à New York, à The Kitchen, évidemment, parce que c'était le temple de l'underground à l'époque. On a fait des performances. On a fait aussi dans les studios de Merz et de Merz Cunningham. Et on a fait 3 jours, je crois. Et à New York, et dans un autre endroit que je ne me rappelle pas. Mais après, au Walker Art Center, à Minneapolis, je veux dire, on a fait beaucoup de performances.
J'ai lu que tu avais écrit un texte sur l'anarchie pour John Cage.
Oui. Oui, oui.
Tu peux nous parler de ça? Ça nous intéresse.
Oui, non, je veux dire, il est dans la web d'ailleurs. Je crois que quelqu'un l'a mis. Mais bon, Cage, il était, c'est qu'il s'est considéré anarchiste. Il a pensé à l'anarchiste. Il est intéressé beaucoup à l'anarchisme de la péninsule d'Espagne, non? Et quand je le voyais, par exemple, Tini Duchamp, ou quand on s'est retrouvé, on parlait d'anarchisme et tout. Et il me demandait sur l'anarchisme espagnol, historique et tout ça, tu vois. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Keith. Il m'a dit « Je dois donner des conférences dans son université et je vais parler de l'anarchisme. Mais je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, si l'anarchisme il a un futur. Est-ce que tu pourrais me faire quelque chose sur ça, m'écrire un texte sur ça ?» Et j'ai dit « Ok ». Après avoir dit « Ok », j'ai dit « Mon Dieu, maintenant il faut que j'invente tout ça ». Et mais j'ai trouvé les fils, hein. Je veux dire, entre autres choses, j'ai quoi que l'anarchisme, il est contre le pouvoir patriarcal, le féminisme, il est contre le pouvoir patriarcal, donc il y a beaucoup de raisons comme quoi l'anarchisme peut être d'actualité, mais une des raisons que je considère importante, c'est justement la lutte féministe et la lutte contre le pouvoir vertical, et les patriarcats. D'ailleurs, on se retrouve les femmes, et anarchistes ou pas, ça rentre dans la pensée anarchiste. Voilà. Et c'est ça que j'ai développé dans mon...
On va continuer, on va écouter ce document que tu nous as gentiment confié, Esther, qui s'intitule « 13 preguntas con respuestas ». Donc, 13 questions avec réponses. Mm-hmm. Donc, on écoute ça.
Si vous n'avez pas entendu, bonsoir.
Comment? Je vais vous expliquer à quoi ça consiste cette action que je vais faire. Et je le fais presque toujours, parce que comme ça, si ça vous intéresse, vous avez quelque chose à faire qui vous intéresse plus. Comme ça, vous savez comment ça va se développer. J'ai préparé une série de questions qui sont dans cette boîte et que je vais répondre pendant 1 minute, chaque réponse. Vous direz, vous pouvez penser, voilà, il a préparé la question et les réponses. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai préparé la question, c'est pas vrai que j'ai préparé les réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est comme 100 questions. Au fur et à mesure que j'ai fait cette performance, j'ajoute des questions. Mais, pour être encore plus honnête, je vais lire une question que je vais répondre pendant 1 minute. Mais, si quelqu'un de vous voulait répondre, vous levez la main et vous dites « Je vais répondre à la question pendant 1 minute. » Il faut respecter la norme. De même, si vous avez une question à me poser, vous me posez la question et je réponds pendant 1 minute. Voilà, comme ça, on est 50-50. Et j'ai préparé la question, mais vous pouvez me poser des questions. Et c'est bon, en tout 30 questions.
Si vous me posez beaucoup de questions, je sortirai moins de questions. Parce qu'en tout, ce sera 30 questions. Plus le temps de dire la question et tout ça. Alors, comme ici, je vois qu'il n'y a absolument pas de nom innocent, c'est moi qui vais le dire. Comme ça. Alors, première question. Bon, c'est Raffaella qui s'occupe de me dire temps, tempo, quand la minute est finie. Est l'amour seulement un délire? Voilà, quelle question. C'est pas la question que j'aime, mais il faut répondre. Oui, je pense que c'est un délire. Absolument. Je pense même que peut-être c'est une maladie, de laquelle certainement on peut guérir. Ou pas, je ne sais pas. Mais surtout l'amour romantique, je pense que c'est complètement un délire. Peut-être je l'ai dit parce que j'ai aucune sensibilité vers l'amour romantique. Chaque fois qu'un homme a essayé d'être romantique avec moi, j'ai trouvé tellement ridicule la chose que ça me faisait rire. Alors, et dans mon cas, je pense que j'ai produit une série d'anticorps, anti-amour romantique, et que c'est vraiment délirant. Et quand j'ai lu la littérature romantique, c'est quoi? Et que les écrivains me donnent carrément raison. Et si vraiment l'amour, c'est quelque chose de délirant. L'amour romantique, l'autre amour, est-ce que ça existe? Pour commencer, la question, est-ce que vous croyez que l'amour existe ou qu'il n'existe pas? Que c'est seulement une suggestion? Non. Être des réponses plus intelligentes que les questions, mais certainement oui, dans mon cas. Bon, c'est difficile parce que comme j'ai fait les questions et j'ai fait aussi les réponses, je peux dire que les questions sont très intelligentes parce que c'est moi qui les ai fait et que les réponses sont encore plus intelligentes parce que c'est moi aussi qui réponds. Alors, je pense que oui. Je veux dire, et à l'époque, j'ai travaillé comme journaliste. Et je faisais des interviews à des artistes, entre autres. Et j'ai posé des questions parfois très intelligentes. Et parfois, j'avais des réponses complètement stupides. Et ça veut dire, rarement, c'était l'inverse. Mais c'est vrai, je ne peux pas dire autre chose. Je veux dire, je ne peux pas faire de la fausse humilité. Je veux dire, je me rappelle avec un écrivain que j'ai posé une question que j'ai trouvée super intelligente et il n'a rien compris de la question. J'étais très, très gênée parce que j'ai pensé, merde, c'est la question la plus intelligente de l'interview et il ne peut pas me répondre. Mais, par contre, des questions que j'avais préparées un peu pour remplir la sauce. Il y a une façon de faire, la preuve. Il y a beaucoup de façons de faire, surtout de faire des performances. Parce que je pars de l'idée que tout le monde peut faire la performance comme il l'entend. Hein? Alors, il y en a 2 millions de performances, de façons de faire des performances. Celle-là, c'est une. C'est la meilleure, c'est vrai. Mais il y en a des autres. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident, par exemple, de faire des performances avec beaucoup de... très théâtralisées, avec beaucoup d'éléments théâtrales, tout la paraphernalia théâtrale, etc. Il y a des autres performances qui font des actions très dramatiques. Je veux dire, donc ma théorie pour rapport à l'action, parce que cette question je l'assimile au monde de l'action, c'est qu'il y a tellement de façons de faire comme des gens qui le font. D'ailleurs, s'il y a 3 000, même maintenant on peut dire beaucoup plus, parce qu'on fait comme ça, et il y a 3 000 performeurs qui sortent de tous les coins, alors il y aura au moins 3 000 façons de faire différentes, compris la mienne. Donc la question c'est facile.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, on écoute Les Oreilles Libres et aujourd'hui on est très content d'être avec Esther Ferrer. Alors on vient d'écouter 13 preguntas con respuestas. Tu peux nous parler de ce dispositif, enfin de ce qu'on vient d'écouter et du principe du dispositif?
Bon, c'est une action, je me pose dans la vie beaucoup beaucoup de questions et je suppose que beaucoup de gens se posent aussi des questions. Donc, un jour, j'ai décidé, j'ai pensé se questionner ou questionner les autres ou proposer des questions, ça peut être une action intéressante à faire. Donc, j'ai fait à partir de ce moment, beaucoup d'actions où j'utilise la question de différentes façons. Dans cette, concrètement, dans cette performance, j'ai écrit beaucoup. Au commencement, c'était comme 20 ou 30 questions, ou 40, je ne sais pas combien, tout ce que je me passais par la tête, que je m'interrogeais. Et j'ai dit aux gens, depuis le commencement, je vais faire, par exemple, 30 questions. Et je vais répondre. Je suis obligée de répondre dans 5 minutes, pas plus. Et au bout d'une minute, il y aura quelqu'un qui me dit « Fini les minutes » et je passe à la question suivante. Bon, pour faire plus clair et pour que les gens ne pensent pas, tu fais les questions et tu prépares les réponses. Donc, alors, je dis « Si quelqu'un veut poser une question, il lève la main, il me pose la question et je dois répondre aussi pendant une minute. » Si quelqu'un, quand je pose la question, bon, j'ai une boîte avec toutes les questions que j'ai normalement, maintenant j'ai presque 200 parce que j'ajoute tout le temps. Alors, quand je sors une question, si quelqu'un veut répondre, il n'a qu'à lever la main et dire je vais répondre pendant une minute aussi. Voilà, c'est tout. Là, je pose la question, si personne veut répondre, moi je réponds dans 5 minutes. Si quelqu'un veut poser une question, il la pose. Ou si quelqu'un veut répondre à la question, il n'a qu'à le dire et répondre. Voilà. Et ça dure, normalement, j'ai fait 30 minutes. Mais ça peut être plus ou moins. Et, par exemple, il peut y avoir une question posée pour le public et il y a une autre personne du public qui veut répondre à cette question. Donc, je veux dire, moi, je suis là comme un des plus. Hein. Je veux dire, j'ai le même rôle qu'il peut avoir n'importe qui. Il faut simplement qu'ils s'approprient, s'ils veulent, de ça. Et parfois, ça, c'est très animé, ça dépend du public. Parfois, ils sont rigoureux, je veux dire, ils veulent absolument... C'est ce qui est intéressant dans les... pour moi, que je l'ai appris, parce que j'ai fait cette performance plusieurs fois dans ma vie, c'est que beaucoup de fois, si je suis inspiré ces jours-là, et parce qu'il y a des jours que tu n'es pas inspiré, j'ai des réponses d'une façon qui réveille beaucoup la curiosité des gens, mais il y a une minute, paf, je dois m'arrêter. Alors les gens, immédiatement, ils veulent continuer. Alors ils te posent une question sur ce que tu étais en train de dire. Et ça, je veux dire, parce que je parle toujours de l'idée que la performance, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est tout. Je veux dire, pour le bien ou pour le mal, c'est ça. Si un jour très bon et je suis très inspiré, c'est très bien. Mais si j'ai un jour que j'ai mal à la tête, ou je me sens mal ou déprimé, tout ça, peut-être c'est vraiment pas bon, mais c'est bon aussi. Parce que c'était ça le moment qu'on a vécu ensemble. On ne peut pas le changer.
Oui. Donc c'est ensemble, hein, ça c'est important. Et alors, il y a aussi ce qui me semble important, c'est que c'est ensemble et c'est aussi qu'il y a quand même un cadre qui est vraiment qui est précis dans cette performance et dans d'autres aussi que tu fais.
Ça dépend parce que quand tu fais des performances dans la rue, il n'y a pas de cadre.
Oui.
C'est-à-dire tout est possible. Bon, dans toutes les performances, tout est possible. Mais dans la rue, je veux dire, tu as un cadre minimum que je veux dire parce que tu sais bien que j'ai fait des partitions. Et j'écris mes performances, voilà. J'ai fait des scènes, j'écris la première, comment je vais les faire la première fois, etc., etc. Mais après, je peux la changer 50 fois, de 50 façons différentes. De fait, je dis toujours dans mes partitions, toutes les versions sont valables, compris celle-là. Oui. Tu vois, parce que pour moi, la performance, ou c'est la vie, ou c'est quelque chose de vivant. Ou sinon, à moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout.
Dans 13 preguntas con respuestas, tu dis, de manière, avec de l'humour, quoi, tu dis, quand même, il faut respecter la norme. Mmh. Et en même temps, le public, enfin, il y a vraiment une émulation du public, en fait. Et en fait, vous jouez avec ces contraintes, avec cette norme qu'il faut respecter.
Oui, mais je veux dire, la contrainte, c'est une façon de faire. Là, en France, vous savez, Oulipo, par exemple, ouais. Bien avant... La performance a existé et c'est la contrainte, c'est intéressant. Beaucoup pour moi, ça, ce n'est pas une contrainte, tu vois. On peut considérer que c'est une contrainte. Mais c'est simplement donner une structure à la performance. Et si tu connais un peu mes partitions et tout ça, en réalité, la plupart de mes performances sont juste une structure.
Oui.
Je passe ma vie en train d'éliminer. Quand j'ai une idée, je dis, mais Ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est... Et à la fin, ça reste un instructeur. Ça s'est rempli dans le moment que j'ai fait l'action. Ou vient moi, ou vient le public, ou vient les deux. Tu comprends? C'est comme les... nous, on disait souvent, à Thar, que Thar, c'était comme les vides d'Itao. Ça veut dire, nous, parce que les gens nous disent, mais vous faites rien, parce qu'on passe beaucoup de temps sans rien faire. Et c'est vrai, c'est pas, et on le disait, c'est comme la réponse du Tao, c'est par les vides que tu peux voir dans la tasse. C'est par les vides qu'on peut être dans cette maison. Donc, c'est les vides, c'est utile, surtout quand ils donnent aux autres la possibilité de remplir ces vides, comme ils veulent. Et tu te trouves qu'il y a des gens qui les vident avec humour. Et c'est très drôle et sympathique. Des gens qui sont violents réagissent violemment, et nous, on a vécu des moments très, très, très violents, des agressions réelles. Ou il y a des autres gens qui les politisent, très souvent d'ailleurs, c'est tout. À l'époque de Franco en Espagne, tu vois, les gens commençaient à crier « Viva l'anarchie, viva la révolution », des choses comme ça. Et tout ça, et tu venais de faire une performance que peut-être tu ne faisais que regarder les gens. Ouais. Très peu, tu vois, je veux dire, parce que ça, c'était l'ambiance. Et que, je veux dire, en Espagne, à cette époque, tout s'est politisé. On sait que tout est politique, mais dans certains moments, c'est plus pressant que des autres choses, tu vois. Donc, c'est cette vide, chacun le remplissait comme il pouvait ou comme il voulait.
Oui. Dans cette performance et dans d'autres que tu as faites, on joue ensemble avec une structure, mais pour déjouer aussi la structure.
Ah, la structure, elle est des points de départ. Juste ça. Mais c'est, si j'ai une idée, j'ai dit je vais faire ça, si rien ne se passe, et si ce jour-là, je vais faire ça, parce que je peux la changer moi-même, parce que je n'ai pas envie de faire ça, et je peux la changer sur scène, dans le moment que j'étais en train de la faire. Hein. Mais, j'ai dit ça peut être ça, mais si quelqu'un intervient, s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, l'action va évoluer, et il va aller dans des autres chemins, que je n'ai aucune idée de ce que va se passer, et ni personne. Et ça, c'est aussi valable. Ce que j'ai fait, ce qui arrive dans le moment que j'ai fait en action, c'est plus important que ce que j'ai écrit.
Donc, la performance, ça peut être un outil pour défaire les structures, comme les structures du pouvoir, le pouvoir.
Mais tu détruis une structure, et il y en a une autre qui vient. Ouais. Tu vois, l'autre qui se forme. Ouais. C'est comme le fractal, mais pas toujours la même chose. Le fractal, c'est toujours la même. Et c'est tac, ça te fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Une structure mène à l'autre. Comme j'ai dit, pour le bien et pour le mal.
Oui.
Mais moi, je considère que c'est toujours pour le bien. S'il n'y a pas d'accident mortel et que c'est tragique, c'est très bien.
Dans cette performance, Treses Preguntas, tu parles de la performance même. Oui. Et dans d'autres performances, c'est la même chose. Par exemple, il y a une performance qui s'appelle Encore une performance. Et c'est une performance sur la performance. Oui. Et cette volonté de faire des performances sur la performance, ça participe également de ce jeu, de ces structures et de... Ouais.
Oui, oui. J'aime bien faire ça en conférence, que c'est en conférence, mais que c'est en performance. De fait, j'ai fait beaucoup de conférences, performances différentes, que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup faire ça. Et ça me donne l'occasion de délirer sur la performance, de parler vraiment sur la performance, de faire... Ce...
Tu vas puiser, enfin chercher et épuiser, tu enlever...
Tu sais, je vais te dire une chose. Je ne sais rien faire. Pour moi, l'art, c'est un voie de connaissances. Je ne sais pratiquement rien faire. Chaque fois que je fais une chose, il faut que je l'apprenne, que je l'invente, que je réfléchisse, que je me dise qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Et la performance, c'est pareil. Je vais dire, donc... Quand j'ai, par exemple, quand j'ai commencé pour les questions, puis j'ai commencé à penser quelles questions sont fondamentalement pour moi, qu'est-ce qui sont les plus intéressants pour moi dans la situation sociale actuelle. Je veux dire, je dois étudier la situation, je dois étudier tout ça. Je veux dire, et j'apprends beaucoup. C'est comme quand j'ai travaillé avec les nombres premiers. J'ai des nombres de mathématiques, je sais ce que tout le monde a étudié au bac. Mais si un jour je décide, pour une raison que je peux t'expliquer si tu me le demandes, sinon non, de travailler avec les nombres premiers, je veux dire, je vais savoir plus, parce que je vais travailler là-dedans. Donc, j'apprends. Et c'est pour moi, c'est ça. Je passe ma vie à faire des choses que je ne sais pas faire et que je vais faire bien, dans mes limites. Et je dois apprendre. Et c'est ça ma vie. Apprendre à vivre. Je n'apprends jamais, je n'apprendrai jamais à vivre, ça c'est sûr. Mais essayer.
Ouais. Il y a, tu disais tout à l'heure en fait, que tu te posais beaucoup de questions. On va voir, après on va écouter un extrait, deux d'ailleurs, où c'est pourquoi. Pourquoi ? Oui. Donc, il y a deux choses, en fait. Il y a la recherche, comme tu disais, chercher, apprendre, étudier. Et puis aussi, pourquoi ? Les enfants, souvent, ils posent la question, pourquoi, tout le temps ?
C'est la question fondamentale que les astrophysiciens, pourquoi, comment, d'onde, tu vois ? Et ça, c'est une question que l'on va pas résoudre. En tout cas, je ne crois pas que dans la vie, ma vie, on va avoir le temps de... Je crois que c'est une question qui n'a pas de réponse. Mais j'aime bien poser la question et faire une performance où les gens, ils peuvent, s'ils veulent, répondre. Comment questionner le français ? Donc, les questions au français, ça m'amusait. Je veux dire, c'est vraiment, pour moi, c'était comme un jeu, les questions au français. Et je veux dire, ça m'amuse parfois. Je m'amuse beaucoup moi-même en pensant à une performance. Après, le public, peut-être, s'ennuie à mort. Parce que normalement, j'ai fait des performances très, très ennuyeuses. Mais moi, je suis d'accord. Avec Picabia qui disait que l'or devient plomb pour ceux qui n'aiment pas la nuit. Et je crois que la nuit peut être très, très productive et très intéressante.
Et donc, tu disais que tu travaillais, tu t'étudiais pour tes performances. Tu les prépares toutes, en fait. Elles sont... ouais.
Je prépare beaucoup, beaucoup les actions. Je les écris, je réfléchis. Je veux dire, j'ai... J'ai le travail, comment je peux travailler un tableau, je peux travailler autre chose. Après, quand je suis en train de la faire, peut-être rien de ce que j'ai écrit va être fait. Je vais faire peut-être autre chose. Ça m'arrivait, par exemple, parce que j'ai pensé la faire, donner en conférence, faire théorie et pratique. Et sur place, j'ai décidé de faire une conférence, mais que c'était différent, mais c'était aussi sur phare. Et les gens qui avaient vu cette conférence avant à Barcelone m'ont dit, mais j'avais vu à Barcelone, c'est pas la même. J'ai dit, au fond, c'est la même. La forme change, mais au fond, je parle de phare aussi. Par exemple, ça m'amuse de faire ça, tu vois. Surtout parce que j'aime bien le faire. Tu sais, pour moi, les gens me demandent souvent qu'est-ce que je préfère, si le travail plasticien ou le travail de performance. Et bon, je ne vais pas commencer parce que c'est une longue explication, mais une chose qui m'intéresse fondamentalement de la performance, c'est le risque. C'est-à-dire, dans le travail de plasticien, c'est le processus qui t'intéresse, au moins à moi, de penser à une structure, des nombres, à un tableau. Je veux dire, c'est le processus qui est passionnant, mais à faire que tu es arrivé à faire l'œuvre, c'est fini. C'est-à-dire, ta relation avec l'œuvre, tu peux l'aimer, pas aimer, être très content, mais c'est fini. Dans la performance, ne finit jamais. Je veux dire, chaque fois que tu fais une performance, moi, je parle toujours de moi. Je veux dire, il y a le risque. Est-ce que je vais être capable de faire quelque chose que moi-même, je ne pense jamais aux autres. Que j'ai dit, j'ai fait exactement ce que je voulais faire, que j'ai dit que ça vient du bouddhisme zen, estar estando. Ça veut dire, tu es là. Et tu es là, et tu t'es accommodé sans tête, et tu perçois tout ce qui passe autour de toi, mais tu es là, tu vois. Et ça, chaque fois, ça, c'est différent. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, 5 fois la même action, c'est pas du tout la même action, c'est pas du tout tu le vis de différentes façons, et c'est des risques, des présences, tu vois. Je veux dire, je suis présent, et eux aussi. Et c'est deux présences qui font une à la fin. Et moi, c'est pour ça qu'à mon âge, que j'ai quand même un âge un peu âgé, j'ai continué à faire des performances. Mais tu sais, quand j'ai commencé à faire des performances, j'adore l'idée du ridicule. Hein. J'aime beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de performances complètement ridicules, d'ailleurs. On me le dit. Hein. Mais j'adore le ridicule. Et j'ai pensé... Et quand, à fur et à mesure que je serai vieille, mes performances seront plus ridicules encore. Parce que te mettre à poil à 20 ans, à 30 ans, ça passe. Te mettre à poil à 75 ans, ça passe très mal. Tu vois, je veux dire, ça c'est ridicule, c'est ta 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 ta. Et ça, j'aime bien cette idée.
Tu as dit, tu as beaucoup parlé du risque et de quelque chose qui continuait, qui se refaisait à chaque fois et chaque fois différemment. Mmh. Le risque, c'est le contraire de la sécurité.
Oui. Oui, mais je veux dire, mais de toute façon, les risques, t'y vais ou t'y vais pas, la sécurité 100%, tu l'auras jamais. Les risques, il est là. Je veux dire seulement que dans la performance, je suis, si tu veux, plus conscient et de que. Et à l'origine, c'est moi qui déclenche la situation. Donc, il faut que je sois et que je la vive comme quelque chose 100%. Tu vois, que je ne me distrais pas dans des conneries, que je suis là 100%. Et ça, c'est très gratifiant. Quand tu fais quelque chose comme ça, que tu sens, par exemple, dans un moment donné, tu sens que le public est là et il est avec toi. Tu vois, je veux dire qu'il est vraiment, c'est que ça marche comme si, je veux dire, ça peut se donner ou pas, mais j'aime bien cette sensation, tu vois.
Tu parlais tout à l'heure de tu dis se foutre à poil, ouais. Voilà. Dans une performance, en fait, tu te mets nu,
oui.
Et une performance assez récente, 2010, je crois, et tu dis auto-performance.
Auto-performance, dans une conférence.
Voilà, c'est ça, auto-performance. Et tout à l'heure, je joins deux choses. Hein. Oui. Et tout à l'heure, tu as dit, ma propre limite, en fait, c'est moi-même. Donc, je voulais te dire, ces deux choses, ça m'a fait penser à d'autres performeurs et performeuses, en fait, qui utilisent beaucoup leur corps. Oui. Et qui, on dirait que, enfin, tu as parlé tout à l'heure de Hermann Nietzsche et tout ça. Oui. Ils vont loin dans le corps, eux. Hein, ils vont, et pour toi, en fait, est-ce qu'il y a des limites, en fait?
Est-ce qu'il y a
des limites? Les limites,
c'est chacun qui les impose.
Ouais.
Je veux dire, moi, je m'impose peut-être, je ne sais pas si je m'impose mes limites, je suppose que oui, inconsciemment, peut-être, mais c'est moi qui me les impose, c'est pas ni toi, ni le public, ni personne qui me les impose. Et je pense que les autres artistes font la même chose, non? C'est-à-dire, il y en a, par exemple, dans le body art, j'ai vécu, non, pas moi, mais dans des situations de performatives, des gens qui faisaient des choses vraiment qui étaient très risquées, tu vois. Mais c'est son goût, c'est son désir, il sait pourquoi ils le font, je n'ai rien à dire. Normalement, je n'aime pas les présentiels, ça c'est vrai. Je n'aime pas,
pas les
être présents, je veux dire. Okay. À partir d'un moment, je dis, oh, j'interviens, oh, je m'en vais, tu vois. Mais... Je veux dire, je n'aime pas la souffrance. Je pense que la vie, elle a son lot de souffrances pour ajouter. Je n'aime pas ça. Je préfère le plaisir. Donc, je n'ai jamais fait des performances qui passent pour la souffrance.
Voilà.
Et que, côté cathartique, côté... Ça, à moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que j'ai une opinion négative ni rien du tout. Mais à moi, ça ne m'intéresse pas du tout.
J'ai l'impression que... Tu prends vraiment en compte l'altérité, même si tu dis oui, moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui me permets. Je pense que vraiment être avec les autres, ça construit ton
travail. Je vais te dire, quand j'ai fait quelque chose, quand j'ai pensé, je ne pense jamais aux autres.
Ah ouais.
je ne pense jamais au public. L'art, je l'ai fait pour moi.
Et pourtant, moi, c'est fou.
Je l'ai fait
hein.
Pour moi, parce que j'ai besoin de le faire, parce que c'est ma vie, parce que j'ai gagné ma vie en faisant ça. Si en plus de le faire pour moi, ça, tu sens qu'il y a quelque chose que le public reçoit, qui l'intéresse et tout ça, alors là, mon ego déjà grandit à des proportions énormes, mais je ne pense pas du tout. Ça m'arrivait de faire une action où je n'étais pas du tout content de moi-même. Et les gens trouvaient ça génial, patati patata. Moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'était vraiment, je n'étais pas là. J'accepte, hein, c'était ça, c'était la situation. C'était pour le bien et pour le mal, comme j'ai dit. Mais je n'étais pas content de moi-même. C'est l'unique personne qui se rendait compte. Tu vois, moi, je l'ai fait pour moi. Ouais. Mais, je veux dire, je l'ai fait pour moi. Par exemple, s'il y a un événement X, scientifique, truc social et tout ça qui m'irrite, qui met comme à tout le monde, non, et qui dit merde, il faut réagir. si j'aurais une idée, je ferais une pièce, tu vois. Dans ce moment-là, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est faire, je veux dire, c'est d'une certaine façon, si j'ai l'opportunité, d'être comme un élément transmetteur,
transmetteur.
Tu vois, je veux dire, de façon que, je veux dire, ça, il faut le dire. Il faut le dire. Si je peux avoir l'opportunité d'avoir une audience, un public et tout ça, je peux faire ça. Cette pièce que je pense en texte, en action, je ne sais pas quoi, quoi que ce soit, dans ce moment-là, la priorité pour moi, ce n'est pas l'art, ce n'est pas que la structure soit. Je veux dire, si tu fais quelque chose qui est bien, c'est plus efficace que si tu fais une connerie. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation pour que ça soit efficace. Mais c'est l'efficacité qui compte. Mmh. Tous les restes, si c'est de l'art, si ce n'est pas de l'art, si ça même, ce que je vais dire de la façon la plus claire possible, de façon qu'il y a toujours d'ambiguïté dans la lecture d'une œuvre d'art, mais je vais éliminer toutes les ambiguïtés possibles pour que les gens passent. Par exemple, que hier, c'est 861 émigrants qui se sont noyés dans la Méditerranée. Et ça, c'est le message. Et après, à partir de là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Tu vois, ça, là, pour moi, c'est, je veux dire, quand, ça, c'est des autres situations, tu vois. Mais, je dis toujours, je le fais pour moi. J'ai fait parce que ça m'a... Je veux dire, il faut que, oui. Faire quelque chose. Tu peux, je veux dire, il faut pour toi. Si en plus, ça serve vraiment, c'est encore mieux, tu vois. Mais je ne suis pas un curé, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un ayatollah, je ne vais pas convertir le monde, je ne vais pas faire la prédication.
Ah ouais.
Je vais travailler en liberté et que tout le monde puisse travailler en liberté.
Mais c'est ça justement ce que je voulais dire par les autres, c'est que je trouve qu'il y a cette liberté que par les dispositifs, les structures, tes structures, tu mets en place des libertés possibles.
Quand j'ai fait une action, par exemple... J'ai dit toujours, les portes ouvertes. Tout le monde peut s'en mettre où il veut. Il peut garder les téléphones portables, il peut faire des photos, il peut faire des vidéos, il peut faire ce qu'il veut. Parce que moi, je suis là pour faire ce que je veux. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Mais, si, j'ai dit toujours, et vous pouvez tout ça, mais si vous me dérangez, alors là, non. Ça m'arrivait, hein. Tu veux dire, de venir le photographe, tu veux dire, largater, ça veut dire, va-t'en immédiatement. Hein, parce que sinon, je prends ton appareil, je le balance par la fenêtre. Et ça fait partie de l'action. C'est pas que, oh, non, non, c'est comme ça. Mais si, je dis toujours, si vous ne me dérangez pas et vous ne dérangez pas les autres, faites ce que vous voulez. Et les portes ouvertes pour que les gens puissent sortir confortablement, parce que tu sais, s'il fait des bruits, les gens, je sais pas. Les portes sont ouvertes, ça veut dire que vous pouvez sortir, rentrer, comme vous voulez, quand vous voulez.
Alors, on pourrait écouter un morceau, là.
Oui?
Je propose d'écouter un extrait de la pièce Espectaculo.
Espectaculo. Voix, Jorge Fernández Guerra. Cinquième variation.
Spectacle, spectacle, spectacle,
spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, spectacle, culación, culador, cular, cularia, culativamente, culativo, culazo, culito.
Sixième variación.
Espectáculo. Espectáculo.
Culocracia.
Espectáculo.
Culogía.
Espectáculo.
Culógico.
Espectaculogismo.
Espectaculología.
Espectaculólogo. Espectaculografía.
Espectaculógrafo.
Espectaculograma.
Espectaculograma.
Especta.
Culojería.
Especta.
Culojuelo.
Especta.
Culomanía.
Especta.
Culometría.
Especta.
Culométrico.
Especta.
Culoscopia.
Especta.
Culoscópico.
Especta.
Culoscopio.
Especta.
Culosis.
Especta.
Culoso.
Especta.
Culoestético.
Especta.
Culotétrico.
Especta.
Culonante.
Especta.
Culación.
Especta.
Culador.
Especta.
Cular.
Especta.
Cularia.
Especta.
Culativamente.
Especta.
Culativo.
Especta.
Culazo.
Especta.
Culito.
Septième variación.
Espectáculo, culo, espectaculocracia, culocracia, espectoculogía, culogía, espectaculógico, culógico, espectaculogismo, culogismo, espectaculología, culología, espectaculólogo, culólogo, espectaculografía, culografía, espectaculógrafo, culógrafo, espectaculograma, culograma, espectaculojería, culojería, espectaculojuelo, jolojuelo, espectaculomanía, culomanía, espectaculometría, culometría, espectaculométrico, culométrico, espectaculoscopia, culoscopia, espectaculoscópico, culoscópico, espectaculos Culoscopio, culoscopio, espectaculosis, culosis, espectaculoso, culoso, espectáculo estético, culoestético, espectáculo tétrico, culotétrico, espectaculonante, culonante, espectaculación, culación, espectaculador, culador, espectacular, cular, espectacularia, cularia, espectaculotativamente, culatativamente, espectaculativo, esculativo, espectaculazo, culazo, espectaculito, culito.
Huitième variación.
Espectáculo, espectaculocracia, espectaculogía, espectaculógico, espectaculogismo, espectaculología, espectaculólogo, espectaculografía, espectaculógrafo, espectaculograma, espectaculojería, espectaculojuelo, espectaculomanía, espectaculometría, espectaculométrico, espectaculoscopía, espectaculoscópico, espectaculoscopio, espectaculosis, espectaculoso, espectáculo estético, espectáculo tétrico, espectáculo dante, espectaculación, espectaculador, espectacular, espectacularía, espectaculativamente, espectaculativo, espectaculazo, espectaculito.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, c'est les oreilles libres. Aujourd'hui avec Esther Ferrer, on vient d'écouter un extrait de la pièce Espectaculo. Tu peux nous parler de cette pièce? C'est la poésie sonore.
C'est beaucoup de fois, j'écris des textes, des choses comme ça, mais pour moi, ça n'en est aucune absolument. Mais parfois, on m'invite, surtout à une époque où il y avait beaucoup de festivals de performances où il y avait aussi des festivals de poésie et tout ça. Et beaucoup de fois, ils m'invitaient dans des festivals de poésie. Donc, je disais, mais je ne suis pas poète. Mais, oh non, non, mais c'était bon. Alors, je vais lire des textes que j'écris comme ça. Et spectaculo, c'est le mot en espagnol. Culo, c'est le cul. Voilà. Alors, j'ai cherché dans les dictionnaires tous les possibles dérivations des spectacles, spectaculocratie, spectaculi, blablabla. Et j'ai décidé de faire un texte sonore. Et après, j'ai inverti, alors, au lieu de dire spectacle, j'ai dit Oluka, Tsetse, ça veut dire le mot spectacle. Parfois, je l'ai fait tout seul, mais pour l'exposition de Reina Sofía à Madrid, j'ai décidé de le faire avec un musicien, un ami à moi, et on a fait un CD qui passait pendant l'exposition, où on fait des variations, toutes les variations que j'avais proposées de cette poésie sonore. Je la trouve très drôle, ça m'amuse beaucoup quand on l'a fait.
Le spectacle. Pourquoi alors une pièce sur espectaculo? Pourquoi?
Parce qu'on est toujours le spectacle de quelqu'un.
Ouais.
Voilà.
Et alors, est-ce que c'est toujours possible, à notre époque, de lutter contre tout élément spectaculaire?
Difficile. Ouais. Guy Debord l'avait dit, la société de le spectacle. C'est-à-dire, on est là. Chaque fois plus, c'est ça, On est dans la société de le spectacle, la politique c'est le spectacle, la religion c'est le spectacle, tout devient le spectacle tragique ou non tragique, drôle, amusant ou pas, ridicule ou pas, mais on vit dans la société le spectacle. Donc quelqu'un a eu tellement raison, pour moi, de mon point de vue. Il faut dire qu'en Océanie, Guy Debord était un peu comme les papes.
Tu fais des performances avec ton corps, avec aussi celui des autres, avec les objets, comme oui. Avec las cosas.
Las cosas.
Donc la voix, on vient, les mots. Qu'est-ce qui est essentiel pour faire une performance?
Qu'est-ce qui est fondamental?
Ouais.
Avoir envie de la faire. C'est juste ça. Et si tu as envie de la faire, tu la penses. Si tu as une idée, c'est mieux. C'est utile d'avoir des idées, même si parfois on fait des performances sans idées, mais si tu as une idée, c'est quand même utile. Après, si tu as besoin d'une théorie, tu l'inventes. Si tu as besoin d'une définition, tu l'inventes. Si tu as besoin d'une technique, tu l'inventes, etc., etc. C'est l'unique chose, c'est avoir envie de la faire. Tout le reste, c'est-à-dire, nous, moi, j'ai fait des performances parce qu'à un moment donné, tu sais, j'ai fait beaucoup de fois une action qui s'appelle « Les semaines se font en marchant
oui. »,
que c'est un poésie d'Antonio Machado, oui. Poète républicain, ici, en France, etc. Et que malgré les franquismes, quand j'étudiais les VAC, en école de non-religieuse, on étudiait Machado, et certaines parties de sa poésie. Donc, cette poésie, « Caminante noi camino, certe camino landa », il m'a beaucoup influencé dans ma vie. C'est depuis que j'avais comme 9 ou 10 ans. Parce que, je veux dire, caminante noi camino. Caminant, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Parce qu'en faisant ton chemin, tu te croises comme les autres qui sont en train de faire son chemin ou qui sont dans ton même chemin. Et c'est comme ça que je me trouvais avec Zahr. J'étais dans un chemin et je me croisais avec eux. Et beaucoup de choses de la vie, c'est ça. Donc, c'est dire, la vie, c'est rencontre. Et pour moi, ça a été très important dans la vie. Dans un first case ou des autres gens, tu vois.
Justement, je veux rebondir sur cette performance dont tu as parlé et parler de la marche. Tu en as déjà parlé.
Oui.
Et justement, j'ai vu... quand je suis venue là, il y a 2 jours là, chez toi, j'ai vu sur la table du salon le Walden de Thoreau. Ça, c'est la marche aussi.
Ah oui,
c'est... Walden. Voilà, on voit, enfin, c'est important pour toi. La marche aussi, c'est le corps.
Oui, moi, j'ai beaucoup marché toute ma vie. Je marche beaucoup. Hein. Je marche beaucoup. Si j'ai le temps, et si le temps n'est pas en froid ou en neige comme ça, je vais la plupart partout à pied, si je peux. Par exemple, cette histoire de ne pas sortir à 9h du soir me gêne parce que très souvent, ma sœur et moi, à la fin de la journée, on sort juste pour marcher. Tu vas faire 1h30, 2h de marche, comme ça. On choisit un quartier qu'on ne connaît pas bien et on les parcourt et tout ça. Tu vas. Et maintenant, on ne peut pas le faire.
Et quand j'ai regardé... Las Cosas,
oui.
La performance où tu mets des objets sur ta tête.
Un équilibre.
Oui. Enfin, l'utilisation de son corps, c'est comme l'utilisation de l'objet. En fait, le corps est un instrument comme l'objet est un instrument.
Oui.
C'est
mon instrument de travail.
Oui. Et il y a une manière particulière d'utiliser les objets, d'utiliser le corps.
Moi, j'essaye normalement, par exemple, d'utiliser des objets très, très ordinaires. Hein. Je veux dire, j'essaye pas des objets esthétiques. Moi, pour que les gens se distraient en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» Non, j'ai des choses comme ça. Le papier toilette, tout le monde en plat des papiers toilettes. Un pain, tout le monde en plat un pain. Un mètre, tout le monde en plat un mètre. Je veux dire, des choses que de la vie de tous les jours. Hein. Je les mets en équilibre, hein, parce que la performance, c'est justement ça. Dire las cosas, o sea, qui sont en réalité, la cosa tiene muchísimo, il a beaucoup plus d'importance que moi-même. Je suis justement la base, tu vois. C'est la cosa et la chose que j'ai choisi de mettre sur ma tête qui focalise l'attention du public. Moi, je suis comme le socle. Tu vois, je suis les socles sur lesquels on met les sculptures, ou l'objet, etc., etc. Et j'aime bien cette idée de mélanger, je veux dire, c'est les socles, c'est l'humain, et le protagoniste de l'histoire, c'est la chose. Tu vois. Mais bon, ça, c'est moi qui les pense. Ce n'est pas évident que les autres vont le penser. C'est très bien qu'ils pensent autre chose.
On va écouter ce fameux morceau dont on a déjà parlé, les questions aux Français.
Ah, questions aux Français.
Voilà.
Questions aux Françaises et aux Français. Questions à se poser en groupe ou individuellement à des intervalles réguliers. Préférez-vous être gouverné pour une mafia monothéiste, polythéiste ou athée? Pourquoi? Préférez-vous être riche ou pauvre? Pourquoi? Préférez-vous être blanche, blanc ou verte, vert? Pourquoi? Préférez-vous être jeune ou vieille, vieux? Pourquoi? Préférez-vous qu'il soit 10h du matin ou 10h du soir? Pourquoi? Préférez-vous avoir des idées ou de l'argent? Pourquoi? Préférez-vous être sainte, saint ou perverse, pervers? Pourquoi? Préférez-vous être un homme public ou une femme publique? Pourquoi? Préférez-vous un multivibrateur ou un multiplicateur? Pourquoi? Préférez-vous que la France soit un hexagone ou un triangle équilatéral? Pourquoi? Préférez-vous vos ancêtres les Gaulois avec ou sans filtre? Pourquoi? Préférez-vous les temps de vos pères ou de vos mères? Pourquoi? Préférez-vous les temps des cerises ou celui des haricots verts? Pourquoi? Préférez-vous la poule au pot ou les pots de vin? Pourquoi? Préférez-vous une France en marche, en avant ou en arrière, vous pouvez choisir? Une France insoumise, une France exemplaire, une France rouge, une France bleu marine, une France verte ou une France de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Préférez-vous l'imagination au pouvoir ou la retraite à 60 ans? Pourquoi? Préférez-vous mettre en danger votre identité nationale ou votre produit national brut? Pourquoi? Préférez-vous l'eau de Vichy ou le régime de Vichy? Pourquoi? Êtes-vous sûr que ceux qui viennent manger votre pain mangent seulement votre pain ou le pain et les saucissons avec? Pourquoi? Préférez-vous être une ministre, un ministre d'État ou être en bon état? Pourquoi? Préférez-vous avoir un cousin germain ou un oncle américain? Pourquoi? Préférez-vous avoir une chaise longue ou avoir le bras long? Pourquoi? Préférez-vous faire ma connaissance ou faire le plein d'essence? Pourquoi? Préférez-vous les coqs gaulois ou la sardine napolitaine? Pourquoi? Préférez-vous que la prochaine guerre mondiale soit retransmise en exclusive par la CNN ou par Arte? Pourquoi? Préférez-vous tourner en rond ou en carré? Pourquoi? Croyez-vous que mondialisation veut dire américanisation ou vice-versa? Pourquoi? Maintenant, prêtez un peu d'attention. Les questions suivantes, même s'ils sont ressemblants, ne sont pas les mêmes. Préférez-vous avoir la puce à l'oreille ou dans le nez? Pourquoi?
Préférez-vous la puce à l'oreille ou la soupe à l'oseille? Pourquoi? Préférez-vous la puce à l'oreille ou la fer à l'oseille? Pourquoi? Préférez-vous la fer à l'oseille ou la soupe à l'oreille? Pourquoi?
Alors Esther, peux-tu nous parler de cette série de questions aux Français que nous venons d'écouter?
Oui. Voilà, bon, c'est aussi, encore une fois, c'est des questions, je veux dire, c'est des, sur la langue française, beaucoup de fois, tu vois, ou sur certaines, par exemple, en France, depuis que je suis en France, ça fait beaucoup d'années, je veux dire, le régime de Vichy, par exemple, c'est l'eau de Vichy, le régime de Vichy, et, par exemple, la pousse à l'oreille, les coqs gaulois. Je veux dire, tout cet lieu commun aux phrases qu'on répète tout le temps. Et, par exemple, un jour, j'ai commencé à écrire des choses sur les dits ou la façon de dire des Français ou certains sujets qui sont toujours, qu'ils les retrouvent tout le temps en France, tu vois. Et bon, alors j'ai décidé de faire une série de questions, par exemple. Celle qui choque le plus, par exemple, que c'est préférez-vous être gouverné pour une mafia monothéiste, polythéiste ou athée? Alors, c'est surprenant toujours de cette question, mais pour moi, c'est une vraie question.
Oui. Il y a la question en français. Ça venait quand même de quelqu'un qui avait une certaine distance par rapport à la langue française et à la France. Le fait de...
Je veux dire, on est étrangère toujours. Moi, je suis étrangère partout. Même en Espagne maintenant, ça fait tellement d'années que je ne vis pas en Espagne que parfois je me sens aussi étrangère qu'en France. Mais de toute façon, c'est un sentiment que parfois c'est très bien, hein, je rencontre. Et parfois c'est dur à avaler, surtout si tu es étrangère d'un pays pas riche. Et je veux dire, si tu viens du Sud, c'est plus difficile d'être étrangère. Et j'ai vécu comme tout le monde, bon, je veux dire, les situations qui ont été signalées que tu es vraiment étrangère, mais je suppose que dans tous les pays du monde, ça c'est pas, je pourrais te raconter des millions d'anecdotes, seulement l'avantage que j'avais, c'est que je suis venue ici parce que j'ai voulu venir. Je ne suis pas venue ni obligée pour les causes de politique, ni pour l'argent, ni pour rien. J'ai choisi venir. Je savais que quand ils décident de faire quelque chose, il faut payer un prix. Et j'étais prête à le payer, c'est tout. Et quand on prenait ça avec beaucoup de philosophie, en plus on répondait. On répondait, sauf que ça, c'était encore pire.
Par rapport au fait d'être étranger, cette question de la langue, parce que c'est aussi un matériau que tu utilises, la langue différente.
Oui, mais mon français, je veux dire, c'est, je voudrais bien parler mieux le français que je le parle. Je les connais bien, la force des choses, mais je ne connais pas du tout. Mais, par exemple, ces questions en français sont des choses élémentales, non? Je veux dire... Et simplement, parfois, sont des choses qui riment. Et je veux dire, c'est une question, préférez-vous avoir un... Je ne me rappelle plus maintenant, mais ce sont des conneries complètement, non? Mais ce sont des conneries qui font, quand je pense, par rapport à la langue, ils sont en sens, tu vois?
Oui.
Mais je ne peux pas prétendre vraiment... Travailler la langue française et tout ça, non.
Mais
non.
La choisir...
C'est plutôt, je veux dire, j'ai choisi des phrases que je trouve souvent et que je peux détourner d'une certaine façon, tu vois. Par exemple, préférez-vous les coques gallois ou la sardine napolitaine? Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la langue française comme telle, non? Je veux dire, et tant d'autres, hein. C'est...
Oui. Et à ton avis, donc, les performances...
C'est juste parce que les coques François, c'est...
Oui, oui.
Les coques, tout ça. Je veux dire, c'est un peu l'histoire de l'identité, tout ça, des choses comme ça, tu vois.
Et justement, alors, j'ai pris cet exemple de questions en français pour
pour poser cette question, à ton avis, faire des performances à notre époque, est-ce que ça peut toujours agir sur notre quotidien, sur notre environnement social, politique?
Oui, je pense que la performance, il peut être actuelle. Je veux dire, de toute façon, un jour, il peut disparaître. Les dinosaures, ils sont bien disparus. Hein. Voilà. Alors, je ne vois pas pourquoi la performance, ça doit être éternelle. Mais il peut disparaître et ça donnera lieu à autre chose. Ça évoluera, ça disparaît. Mais bien sûr, je veux dire, pour les gens qui le font, par exemple moi et tant d'autres qui le font, c'est utile, c'est pratique, c'est notre vie. Il a un sens, il a un contenu, ça te sert à toi et tu rêves que peut-être ça va servir à quelqu'un d'autre aussi.
Et les installations, comment tu es passé aux installations? Est-ce que ce désir de faire des installations, il est venu après? C'était pour laisser des traces de performance
non,
ou c'était
non,
autre
non,
chose?
Non, pas du tout. C'est simplement, bon... Parce que la performance et l'installation sont j'écris même sur ces sujets parce qu'ils sont les trois éléments fondamentaux, la présence, le temps et l'espace. Et la performance, seulement déclinée de différentes façons. Donc, si tu vois bien, il y en a beaucoup, beaucoup d'artistes de performance qui font des installations. Le passage est très, très vite. Et par exemple, ça m'arrivait dans mon travail, beaucoup de passer en idée, par exemple, que j'ai pensé et j'ai fait une performance et devient installation et vice-versa. Donc je passe de la performance à l'installation avec la même idée très souvent, parce que j'aime bien décliner la même idée sur différents supports. Pourquoi? Parce que les supports peut changer l'interprétation de l'œuvre. Elle peut l'enrichir, elle peut lui donner plus de contenu ou de différents contenus. Ça, je l'ai expérimenté dans la vie réelle. Hein. Donc, ça m'intéresse, tu vois, de décliner la même idée sur des supports différents. Si l'idée m'intéresse suffisamment pour le faire, sinon je laisse tomber, je fais une œuvre plastique ou une performance, mais si ça, quelque chose qui me prend vraiment, j'aime bien faire l'idée. Par exemple, dans les choses ou dans les cadres de l'art, j'ai fait des installations et des performances. Et des autres, que maintenant, je ne me rappelle pas. Mais
et ça participe des variations, cette idée de variation?
Oui, des variations, oui. Oui, oui.
Ouais. Alors, on va se quitter avec... trois petits extraits qui vont se succéder. Donc, justement, les 23 variations. Les variations. Donc, mm-hmm. Voilà. Le morceau qui s'appelle Pourquoi. Mm-hmm. Et le dernier morceau qui s'appelle Et les mots reviennent. Donc, variation, pourquoi et les mots reviennent. Tu peux nous dire quelques mots sur ces trois.
Et les variations. Ah oui, tu veux dire. Je n'ai pas en tête, c'est une variation, c'est faire une variation dans la variation. Voilà, c'est tout ça, simplement comme ça. L'autre, c'était
pourquoi
quoi?
Pourquoi?
Pourquoi comme.
Pour vous, c'est ça, pourquoi comment ouais.
Bah, parce que c'est les trucs qu'on se pose toujours. Si tu commences, dès que tu commences à lire des livres sur physique, astrophysique, tout ça, la question, c'est toujours la même. Et donc, moi, ça me semble intéressant. De poser la question, par exemple, je peux le lire simplement ou je peux laisser des espaces pour que les gens répondent s'ils veulent. Hein. Et c'est une préoccupation réelle, celle-là. Pourquoi existe tout ça? Comment existe tout ça? Tout ça, c'est vraiment quelque chose que je pense souvent.
Voilà,
donc, j'ai décidé de faire une action.
Voilà, on en a parlé ouais. Déjà. C'est très important, en fait, pour toi. Voilà. Et les mots reviennent.
Et les mots reviennent, c'est justement, je veux dire, j'aime bien les permutations, j'aime bien les structures, comme tu vois dans beaucoup de mes performances. Et j'ai décidé de faire les mots du poète, des poèmes, en participation, en structure. Je veux dire, d'abord, il y a toutes les lettres de l'alphabet, et après, chaque lettre de l'alphabet, il y a 5 participations A, la lettre A, E, I, O, U. C'est juste trouver toutes ces participations et pouvoir faire cette structure, qu'il y ait l'alphabet complet et chaque participe, si on commence pour A, il y a A, E, I, O, U. Après, je commence avec A, B, la B. Il doit avoir l'œil, donc tout ça. Ça met, je veux dire, j'ai passé beaucoup de temps. en cherchant dans le dictionnaire des participes passés qui me parlent. Et si tu vois, beaucoup de fois, un participe passé, si tu les mets dans ces contextes, il prend des significations très différentes. Ouais. Quand je les lisais la première fois à notre voix pour voir les rythmes et tout ça, et c'était curieux, un participe passé complètement banal, que dans ce contexte, il peut trouver un, il peut avoir un, quelques connotations différentes. Et ça, ça m'intéresse aussi beaucoup.
Ça t'intéresse autant que les nombres premiers ?
Les nombres premiers, ça m'intéresse, bien sûr. Parce que, tu sais, c'est un travail passionnant. Mais j'ai suis arrivée, tu vois, un peu aussi par hasard. J'ai fait beaucoup de structures dans l'espace, des maquettes avec des fils et tout ça. Ça veut dire distribuer un espace le plus grand possible avec le moins d'éléments possible. Et les fils, c'est un élément pratiquement que tu le vois, c'est comme un dessin dans l'espace. Mais j'ai fait ça quelques fois mieux, hein, cette maquette, tu sais. Et un jour, j'ai décidé, j'ai dit, je vais chercher quelque chose, vraiment encore une contrainte, qui m'oblige à avoir un... Vous savez, tu veux ou tu veux pas, tu es en esthétique. Hein, et parfois, l'accident te sauve de cette esthétique et t'oblige à aller ailleurs. Et un jour, j'ai rêvé et que j'ai nagé dans une mer des nombres. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu dans ma tête 11, 13. Au commencement, j'ai pensé que c'était des nombres pas divisibles, simplement, je veux dire, divisibles pas pour deux. Pour... Et après, j'ai dit, pas seulement, ce sont des nombres premiers. Je me rappelais de mon bac. Hein. Et j'ai dit, mais les nombres, c'est en série. Je pourrais travailler avec la série des nombres premiers. Et j'ai commencé à travailler, ça m'a mis du temps, parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, la série de Fibonacci, c'est prévisible. Tu sais que les nombres qui viennent, c'est l'addition de deux avant. Donc, tu sais parfaitement, tu peux créer une structure là-dedans. Avec les nombres premiers, tu rêves. Pas du tout. Tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont apparaître. Personne ne sait s'il y a une norme qui les... qu'il est riche, même aujourd'hui, hein, on ne sait pas, et pourtant, il y a des gens qui les étudient. Donc, quelques mathématiciens que j'ai parlé, mais c'est où là, ça va être difficile, parce que qu'est-ce que tu peux faire avec? Donc, j'ai mis beaucoup de temps jusqu'à arriver vraiment à trouver quelque chose qui me... C'était la fin des années 70, et c'est le nombre premier, justement, qui m'a amené à Pi. Parce que quand j'étudiais, est-ce que la série de nombres premiers, il est fini, on finit, et tout ça, ça m'a porté à l'idée de l'infini. Et en mathématiques, il y a le nombre qui s'appelle nombre infini, entre autres pi. Et j'ai dit, ah, c'est bien, je peux aussi travailler l'idée d'infini à travers le nombre pi. Et j'ai fait une installation. Tu vois, c'est comme... Et comme tu peux t'imaginer, encore une fois, comme j'ai dit, hein, des nombres premiers, des pi et tout ça, je savais exactement ce qu'on apprend dans les bacs, pas plus. Et c'est pas que maintenant, je sais beaucoup, beaucoup plus, mais quand même, pour faire une installation à base des pi et tout ça, j'étais obligée de lire des choses sur pi, surtout pour apprendre, mais pour me mettre un peu en situation. Tu vois, c'est pour qu'il ait des connotations qui enrichissent mon idée basse. Mmh. Tu vois, parfois, tu vois des phrases ou des choses qui me disent qui réveillent des connotations et tu agrandis cette idée qui est complètement tout petite. Tu vois, agrandis et prend forme et tu dis, ah oui, je peux aller par là, je peux...
Voilà. Et maintenant, alors, quels sont tes projets? Puisque...
Mon projet, bon, maintenant, justement, je suis en train de travailler avec les nombres premiers à une chose, grâce à un mathématicien espagnol, professeur à l'université, Raoul, qui divulgue. J'ai là un premier tableau des 80, son 6 tableaux, des 84, où, tu sais, dans la série des nombres premiers, plus tu avances dans la série, plus espace il y a entre les nombres, parce que c'est facilement divisible. Plus grand c'est le numéro, plus facile de trouver un diviseur. Donc, et je voulais représenter ça graphiquement, et j'ai fait 7 tableaux, qui vont être exposés d'ailleurs bientôt dans un musée, et où j'ai commencé de 1 à 1000, le 12e c'est de 1000 à 2000, après je passe en chiffre des centaines de mille, et après je passe au million, gardant la même structure, et la même relation entre les nombres, les structures que je définis, tu vois, que c'est comme que ça respire. Tu vois, et moi j'ai toujours pensé que les nombres premiers, ils ont quelque chose à voir avec l'univers, comme les galaxies, tu vois, qui s'expandent. Ça, c'est quelque chose. Et j'avais fait ce tableau. Et justement, un jour, on m'a invité à un truc de mathématiques dans l'université de Bilbao. Et on a parlé de mon nombre. J'ai raconté ça. Et comment cette expansion et cette distance entre les nombres. Et un mathématicien qui était là, il m'a dit, c'est curieux que tu parles de ça, parce que tu sais qu'est-ce qui s'appelle lacune dans la série des nombres ? Mal, pas du tout. Et lacune, ça veut dire, par exemple, une série des nombres où il n'y a aucun qui soit premier. Et la lacune,
ah, oui,
plus grande qu'on connaît pour le moment, c'est une lacune qu'il y a 1000... Non, je ne sais pas, quasi 1000... Et pourtant, je l'ai travaillé, je me rappelle. Et nombres où il n'y a pas en premier entre eux. J'ai trouvé ça génial. Et il m'a dit, à partir de c'est un chiffre de 16 numéros. Les numéros, je comprends, 16 chiffres. Ça veut dire que c'est énorme. Et à partir de ça, j'ai décidé de faire des tableaux pour moi. Et je l'ai travaillé, cette lacune, comme un trou noir. Tu vois, tu sais, les trous noirs, il y a tout ce qui l'attire. Ils sont en train de tourner, et tourner autour. Alors j'ai vu ces trous noirs, ces lacunes, et autour les autres numéros, et qui sont au avant ou après. Alors j'ai fait 3 tableaux. Avant d'arriver au trou noir, à la lacune, après d'arriver à la lacune, et avant et après dans le même tableau. Et ça m'a pris... Depuis, j'ai commencé à la fin du confinement.
Ah ouais.
Et j'ai fini il y a une semaine.
et on va pouvoir voir l'exposition dans quel musée
et non, c'est pour une exposition à Madrid.
Ah, c'est à Madrid.
En principe. Mais celui-là, les 6 là, c'est Guggenheim de Bilbao qui organise avec, Beaubourg, une exposition sur l'abstraction et des années 80 ou des années 70, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas pourquoi, ils m'ont demandé justement cette série. Donc, il sera, mais l'exposition, ça sera l'année prochaine, je suppose. Et ça, si tout va bien, il sera exposé à Bilbao et à Paris.
Et malgré la situation actuelle, tu as des dates d'exposition.
Voilà, bon, tout est relatif. Veux dire, on a des dates, par exemple, l'exposition à Bratislava. Maintenant, j'ai fait une exposition à Bratislava, je ne suis pas allée, bien sûr, parce que je ne vais pas voyager dans ces situations. La galerie est ouverte, mais il faut prendre rendez-vous.
Oui.
Et, hein, la galerie de Madrid, que, je veux dire, en principe, l'exposition, c'est le 17 janvier. Si les choses vont bien, on la fera normalement, sinon on la fera, je ne sais pas combien, comment tu vois. Mais bon, toutes les performances, la même chose. Je veux dire, j'ai quantité de performances qui ont été pas annulées, retardées, mais à la fin, on finit pour les annuler, parce qu'on ne peut pas accumuler des dates, parce qu'il faut continuer à programmer, tu vois. Donc, beaucoup de choses qui ne seront jamais faites, parce que ce n'est pas possible.
D'accord, bon, ben, on va se quitter donc en écoutant les variations, pourquoi, et les mots reviennent, 3 extraits de performance, en fait. Donc, merci beaucoup, Esther.
À vous pour m'avoir invité. C'est toujours satisfaisant de travailler pour l'idée anarchiste.
Bon, au revoir, à bientôt.
23 variations sur le même thème. Dans d'autres lieux, pour la même raison ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. D'autres lieux, pour la même raison ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. S'il me plaît, je la garde aussi. Lui, pour la même raison ou une autre, je fais une nouvelle variation. S'il me plaît, je la garde aussi. Pour la même raison ou une autre, je fais une nouvelle variation. S'il me plaît, je la garde aussi.
La même raison ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Même raison ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Raison ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Ou une autre, j'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Une autre, je fais une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Autre, je fais une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. J'ai fait une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Fais une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Une nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Nouvelle variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Variation. Si elle me plaît, je la garde aussi. Si elle me plaît, je la garde aussi. Elle me plaît, je la garde aussi. Me plaît, je la garde aussi. Plaît, je la garde aussi. J'ai la garde aussi. La garde aussi. Garde aussi. Aussi. Pourquoi, comment, où et quand? Combien de fois mes sujets posaient la question pourquoi? Combien de fois mes sujets posaient la question comment? Combien de fois mes sujets posaient la question où? Combien de fois mes sujets posaient la question quand? Pourquoi mes sujets posaient la question pourquoi? Pourquoi mes sujets posaient la question comment? Pourquoi mes sujets posaient la question où? Pourquoi mes sujets posaient la question quand? Comment mes sujets posaient la question pourquoi? Comment mes sujets posaient la question comment? Comment mes sujets posaient la question où? Comment mes sujets posaient la question quand? Où mes sujets posaient la question pourquoi? Où mes sujets posaient la question comment? Où mes sujets posaient la question où? Où mes sujets posaient la question quand? Quand mes sujets posaient la question pourquoi? Quand mes sujets posaient la question comment? Quand mes sujets posaient la question où? Quand mes sujets posaient la question quand? Les mots du poème. Les mots du poème au participe passé. Et les mots reviennent. Accaparés, anesthésiés, affichés, atrophiés, actualisés. Et les mots reviennent. Bariolés, bégayés, bigarrés, bondés, bureaucratisés. Et les mots reviennent. Calomniés, cédés, cicatrisés, confisqués, cuisinés. Et les mots reviennent, damnés, dégénérés, diminués, domestiqués, dulcifiés. Et les mots reviennent, éclatés, épellés, effilochés, étonnés et lucubrés. Et les mots reviennent, fabriqués, fécondés, fixés, fossilisés, fusillés. Et les mots reviennent, gaffés, gênés, giclé, gonflé, gutturalisé. Et les mots reviennent, handicapé, hébété, hiérarchisé, honoré, huilé. Et les mots reviennent, imaginé, idéalisé, inspiré, isolé, illuminé. Et les mots reviennent, jappé, jeté, jonglé, justifié. Et les mots reviennent. Kidnappé. Et les mots reviennent. Lacéré, légué, libéré, localisé, lustré. Et les mots reviennent. Maniéré, méprisé, microfilmé, monopolisé, multiplié. Et les mots reviennent. Nationalisé, négocié, nier, notifier, numériser. et les mots reviennent, ovationnés, ornés, orientés, opposés, occultés. Et les mots reviennent, paralysés, pénalisés, piétinés, politisés, purgés. Et les mots reviennent, qualifiés, quémandés, quittés, cotés. Et les mots reviennent, raccommodés, récupérés, ridés, rodés, ruinés. Et les mots reviennent, sabotés, serrés, signalés, socialisés, susurrés. Et les mots reviennent, tachés, télécommandés, titrés, torturés, tués. Et les mots reviennent, usagés, ulcérés, uniformisés, utopifiés, usurpés. Et les mots reviennent, vaccinés, véhiculés, vidés, volés, vulgarisés. Et les mots reviennent. Et les mots reviennent. Cellographiés, xylographiés. Et les mots reviennent. Et les mots reviennent. Zégaillés, zigouillés, sautés,